Les mouvements populistes dans le monde occidental ont atteint de nouveaux sommets en 2016. Après Brexit et l'élection de Trump, on constate que le populisme a eu des effets concrets importants sur la politique du monde actuel. Dans cette troisième partie du podcast francophone, Charlotte Provost, Mégane Vizette et Charlotte Levé discutent du mouvement populiste en France, le Front National, et son influence dans le monde d'aujourd'hui.
Dans le contexte des élections américaines, est-ce que tu trouves que le cheminement des élections françaises va prendre un tournant similaire?
Oui et non. Donc c'est un peu ma réponse pour la comparaison entre les États-Unis et la France. Donc je dirais pour le non, le système électoral français est très différent du système électoral américain et le système politique aussi, qui fait qu'il y a une culture politique assez différente quand même. Parce que le système américain est centré sur deux partis et ces partis ne peuvent pas trop changer de discours, bien qu'on a vu avec Donald Trump qui était assez un phénomène en lui parce qu'il a tellement changé de discours du parti républicain. Mais les partis en général doivent rester où ils sont pour avoir le plus de votes. Ce qui fait que le parti démocrate doit être centriste. Il ne peut pas être socialiste pour faire concurrence au parti républicain. Donc du coup, la politique a tendance à rester entre une politique de droite et une politique de centre, même centre-droite, parce que c'est où se trouve l'électorat américain. Et les autres candidats au parti doivent ou essayer de faire partie de un de ces deux partis, le parti républicain ou le parti démocrate, ou rester fringe entre guillemets, avec aucune chance d'être élu. Mais ils peuvent garder un peu une politique un peu plus ciblée sur d'autres choses et non centriste. Mais en France, il y a plusieurs partis politiques qui peuvent avoir un message un peu plus ciblé. Et donc, il y a un parti socialiste, il y a un parti d'extrême droite, il y a aussi des partis plus centristes. Et par exemple, on voit ça parce que aux élections françaises, il faut avoir un 50% plus 1 pour gagner. Donc, il y a souvent plusieurs tournées d'élections. Au premier tour d'élection, on a vu 4 partis qui a eu plus que 10% du vote populaire.
Mais ça reste quand même un système majoritaire, non ?
Aux États-Unis ?
Non, en France.
En France, oui, ça reste un système majoritaire.
Parce que moi, j'avais pensé, tu sais, si tu appliques des théories de sciences politiques à ça, l'espèce de... Tu sais, le fameux graphe avec le système majoritaire en U, où tu vas avoir... les extrêmes vont rester sur le côté et vont pas pouvoir avoir leur vote qui compte. Donc, finalement, la majorité des partis qui sont en course vont être dans la même branche de valeurs qui va rester comme au milieu, même s'ils sont de droite ou de gauche, ça reste quand même des aspects similaires. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Genre, peut-être un exemple plus concret, beaucoup de gens disent dans le gouvernement de François Hollande, finalement, que même en étant un socialiste, il avait des politiques qui étaient très libérales, même qui étaient similaires à aux valeurs de Nicolas Sarkozy, qui était son prédécesseur.
Lorsqu'ils sont au pouvoir, peut-être que c'est vrai, ou même lorsqu'ils sont au deuxième tour des présidentielles, où ils sont à deux et il faut qu'ils essaient d'attirer le plus de votes, et donc ils prennent un peu des positions un peu plus centristes. Mais au premier tour, il y a beaucoup plus
de diversité.
Ouais. Qui fait que le système français a eu beaucoup de genre de président.
Ouais. Mais il faut dire aussi, je suppose que...
Oui et non.
Faut dire qu'en France aussi, c'est plus une culture socialiste.
C'est sûr.
Je veux dire, avec... quand on parle toujours des mouvements...
Ça se ressemble aux États-Unis parce que la hausse de discours populiste et xénophobe global se manifeste néanmoins en France. Ça reste pas aux États-Unis. Donc quand on le voit aux États-Unis avec le discours de Donald Trump, on le voit en France avec le discours de Marine Le Pen. Et la France, c'est sûr, elle n'échappe pas du tout à ça. Et elle a même un parti très 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 populiste, très d'extrême droite.
Et donc est-ce que tu penses que Marine Le Pen est le nouveau Trump français?
Alors encore une fois, oui et non. Marine Le Pen a quelques similarités à Trump, Par exemple, elle veut se séparer des accords comme l'OTAN et l'Union européenne. Mm-hmm. Elle est contre certains accords de libre-échange comme le TTIP, mm-hmm. Comme Donald Trump. Sa campagne, comme celle de Donald Trump, est énormément centrée sur ce qu'ils appellent le fondamentalisme islamique, mm-hmm. et la peur des gens du terrorisme. Et elle veut aussi, comme Trump, renouveler la relation entre la France et la Russie, quelque chose que, par exemple, Hillary Clinton a beaucoup refuté et a mm-hmm. beaucoup accusé Trump d'être l'ami ou le collaborateur, l'allié de Trump. Mais Marine Le Pen, comparée à Trump, n'est pas un bouffon. Et je dis ça parce qu'elle a un sens de la politique un peu plus approfondie, je dirais, que Trump. Elle a un sens pour gagner ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Par exemple, elle a expulsé son père en 2005 parce qu'il avait un discours antisémite. Et elle a dit qu'elle a expliqué que le commentaire était défavorable pour la campagne du Front National. Donc elle cherche dans son sens politique de préserver sa campagne. Mm-hmm. Mais par exemple, quelqu'un comme Donald Trump, qui a été soutenu par un des anciens chefs du KKK, n'a pas rejeté son soutien. Dans le cas de Marine Le Pen, elle l'aurait fait pour garder son siège. Voilà. Et elle s'éloigne plutôt des discours qui peuvent lui faire du mal politiquement. Rosa Balfour, un membre important du German Marshall Fund aux États-Unis, a dit que la ressemblance entre Trump et Le Pen, c'est qu'ils sont capables de profiter en période de crise parce qu'ils simplifient des sujets complexes et ils proposent des solutions en noir et blanc. Ce qui est très très vrai pour les deux et ce qui est très typique du mouvement populiste dans le monde entier. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour la campagne de Trump, pour lui, la solution aux immigrés qui, selon son discours, sont dangereux et prennent les boulots des Américains, et de construire un mur sur la frontière mexicaine, d'interdire l'immigration des musulmans. Et il dit tout le temps qu'il va faire ça tout seul, que c'est lui seul qui peut faire ça. Et c'est des visions très très simples, et ça donne des réponses simples aux personnes qui cherchent des réponses à la crise, certaines personnes qui cherchent des réponses à la crise. Et pour Le Pen, par exemple, la solution à l'immigration, au chômage, au ce qu'elle appelle le fondamentalisme islamique, est de partir de l'Union européenne, de limiter l'immigration, surtout à l'immigration musulmane, et de surveiller les quartiers musulmans.
Tu as relevé un sujet assez important, c'est que dans n'importe quel gouvernement, on a tout le temps des extrêmes, souvent des extrêmes qui ne prennent pas nécessairement beaucoup d'ampleur, mais récemment, surtout dans le contexte français, veut pas, c'est pas qu'il fallait s'en attendre, mais les conditions pour qu'un parti extrême de droite soit créé, c'était les conditions parfaites, ouais. Surtout avec tous les incidents de terrorisme un après l'autre qui se sont produits en France. Les gens ils ont extrêmement peur, sont confus, ils ne savent pas s'il va y avoir une attaque, ils ne savent pas qu'est-ce que le gouvernement va faire. Mm-hmm. Donc, quand tu as quelqu'un comme Marine Le Pen qui vient avec un discours très, très simple, et non seulement simple, mais fort.
Fort, oui.
Qui dit, nous, on est capable de se protéger et c'est comme ça qu'on va se protéger, même si ses commentaires sont profondément racistes,
ouais.
Les gens qui... évidemment, ceux qui ne sont pas nécessairement inclus dans le côté de son mauvais bord, ça les attire et ça les inspire. Donc, est-ce que tu crois que Marine Le Pen aurait pris autant d'ampleur si les événements terroristes qui se sont produits dans les dernières deux années en France n'auraient pas eu lieu?
Peut-être. Je dis peut-être parce que, et je dis ça, et je pense que c'est aussi peut-être aux États-Unis parce qu'il y a eu quelques attaques terroristes aussi, dont San Bernardino et Orlando.
Boston aussi.
Je pense que ça a beaucoup donné du fuel,
ouais,
à ces campagnes, mais c'est aussi des pays qui ont été très affaiblis économiquement par la crise économique. Et c'est aussi des gens qui promettent à beaucoup de gens des emplois, un renouvellement d'une force économique qui... et c'est aussi, ils parlent aux gens qui sentent qu'ils n'ont plus d'emploi à cause de la crise ou qui n'ont plus d'emploi à cause de la globalisation, mm-hmm. ou leur boulot d'industrie sont allés dans d'autres pays où c'est moins cher. Ils sentent que les nouveaux immigrés qui viennent en France et aux États-Unis prennent leur boulot. Donc ce discours marcherait encore. Le discours xénophobe, sans doute, marcherait encore. C'est juste que les attaques terroristes ajoutent à la peur et aident ces chefs de parti.
Ouais.
Et c'est très facile aussi pour un chef de parti qui a un discours populiste de l'extérieur, qui n'est pas au gouvernement, d'accuser le gouvernement de ne pas être assez fort.
Mm-hmm.
C'est une position assez, pour eux, pour leur campagne, très très favorable.
Merci à Mégane et à Charlotte pour avoir participé à ces trois parties du podcast francophone et pour avoir amené vos diverses perspectives à ces discussions sur la politique dans le monde francophone.
Merci.
Merci.